Gouvernement. Le concept de gouvernement de nos jours s'entend dans un triple sens. Soit il désigne la forme d'organisation d'un État, son régime constitutionnel, c'est en ce sens, issu de la notion grecque de politeia, que Montesquieu distinguait trois espèces de gouvernement, républicain, monarchique, despotique, ou que l'on parle aujourd'hui de gouvernement démocratique. Soit il désigne l'organe du pouvoir politique au sein de l'État, dans l'acception la plus large, le gouvernement synonyme d'autorité publique, ou la plus étroite, le gouvernement comme fonction spéciale de l'exécutif. Soit, enfin, il désigne la conduite même des affaires publiques. Sous ces trois acceptions, le mot a donc une signification étroitement politique qui correspond à une phase assez tardive de son évolution. Son champ d'application jusqu'au XVIIIe siècle était beaucoup plus large, comme en témoigne l'édition du dictionnaire de l'Académie française de 1694. Le verbe « gouverner » alors englobait les sphères individuelles et domestiques, se gouverner au sens de tenir une conduite bonne ou mauvaise dans sa vie, dans ses mœurs et dans ses affaires, gouverner au sens d'administrer, d'éduquer, le gouverner sa maison, gouverner ses enfants. Mais il englobait également la direction des hommes, le soin des animaux, gouverner une basse-cour, la gestion des choses, gouverner ses munitions, l'art de la navigation, les diverses modalités, enfin, du commerce humain, gouverner au sens de fréquenter ou avoir du pouvoir sur l'esprit de quelqu'un. Il combinait ainsi des valeurs morales, psychologique, technique et économique. L'élément commun à la plupart de ces usages réside dans l'idée d'un pouvoir s'exerçant sur un être ou sur une chose, non pas pour leur faire violence, mais en vue de leur conservation, de leur bien-être ou de leur accomplissement. Cette signification a des racines anciennes. Elle est déjà mise en avant au XIIIe siècle, par exemple, par Thomas d'Aquin, dans son traité des Regnaux du gouvernement royal. Gouverner un être, écrit-il, c'est le conduire comme il faut, à la fin requise. Ainsi dit-on qu'un navire est gouverné lorsque l'habileté du pilote le conduit sans dommage au port par le droit chemin. Si donc quelque chose est ordonné à une certaine fin, comme le navire à atteindre le port, l'office, le devoir, la fonction de celui qui le gouverne consistera non seulement à conserver la chose intacte en elle-même, mais en outre à la conduire à sa fin. Gouverner, en d'autres termes, c'est agir conformément à la nature de cet être ou de cette chose, pour lui permettre de réaliser sa fin, qu'il s'agisse pour l'homme de se garder en bonne santé ou de mener une vie vertueuse, ou pour le navire d'atteindre son port. Le gouvernement de la sorte prend essentiellement la forme de la conduite et s'oppose par là à la domination comme pouvoir agissant par la contrainte ou la violence. Cette antithèse de la conduite et de la violence trouve sa source dans la doctrine chrétienne du gouvernement des âmes au Moyen Âge. On en trouve l'analyse la plus complète dans « La règle pastorale », c'est le titre de l'ouvrage « La règle pastorale » du pape Grégoire le Grand, composé en 590-591, qui fixa pour plusieurs siècles les conditions éthiques du bon gouvernement. Ce texte, d'une importance capitale pour la genèse de la littérature politique médiévale, se compose de quatre livres. Le premier définit les conditions qui permettent d'accéder au gouvernement et justifie qu'on en accepte la lourde charge. Le second explique comment doit se comporter le pasteur, le gouvernant, dans l'exercice de son magistère. Les troisième et quatrième, enfin, exposent la psychologie dont il doit faire preuve dans la prédication, selon le type d'âme auquel il s'adresse, en se montrant attentif aux différences d'âge, de sexe, de conditions sociales, de fortune, de tempérament, etc. dans cet écrit. Le gouvernement ecclésiastique désigne donc un gouvernement non violent des hommes, fondé sur l'exemple et la persuasion, et qui, par la surveillance de leurs mœurs, la connaissance des secrets de leur cœur, la mise en œuvre d'une pédagogie finement différenciée, s'efforce de les conduire vers la perfection. Avec l'autonomisation progressive du pouvoir séculier à la fin du Moyen-Âge, le rôle du gouvernement se dissocia de ses fins éthiques pour se concentrer de plus en plus sur la puissance. De là, chez Machiavel, la redéfinition du gouvernement en termes de technique de domination. Gouverner, écrit-il dans ses discours sur la première décade de Tite-Live, chapitre 23 de la deuxième partie, n'est rien d'autre que tenir ses sujets de telle sorte qu'ils ne puissent ou ne doivent vous causer du tort. Cela se fait soit en s'en assurant entièrement et en leur enlevant tout moyen de vous nuire, soit en leur accordant des bienfaits de façon à ce qu'il ne soit pas raisonnable qu'ils aient à désirer changer de sort. Toute la problématique du prince nouveau, désormais, est de tenir sûrement son pouvoir en s'assurant de ses sujets. C'est la sûreté de l'État, et non plus l'accomplissement d'une fin éthique qui devient l'objet du gouvernement. On entre ainsi dans l'âge du pouvoir absolu, où l'art du gouvernement réside tout entier dans la capacité à se faire obéir. Le gouvernement de l'or se confond avec l'exercice même de la souveraineté. C'est avec Rousseau que le mot acquiert le sens nouveau qu'il a conservé depuis de pouvoir exécutif. Alors que dans les monarchies, le gouvernement se confond avec la puissance souveraine, dans les républiques, explique Rousseau, et il appelle de ce nom tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être, dans les républiques, il lui est strictement subordonné. Selon les véritables principes du droit public, il n'est, ce gouvernement, que la puissance exécutive soumise à la volonté du souverain, c'est-à-dire la puissance législative qui appartient au peuple. Qu'est-ce donc que le gouvernement, demande Rousseau? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain, le peuple donc compris dans sa totalité, pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civile que politique. Contrat social 3.1. Tout relatif qu'il soit au nombre des citoyens, au caractère du pays et à divers autres facteurs, le gouvernement découle entièrement par son institution de la puissance législative. Il a si peu de consistance en dehors de celle-ci que son action, dit Rousseau, cesse à l'instant où le peuple est légitimement assemblé en corps souverain. Contrat social 3.14. Avec Rousseau, par conséquent, le gouvernement cesse d'être considéré comme la manière dont s'exerce le pouvoir souverain pour se trouver réduit au rôle de simple instrument de celui-ci. Ce geste par lequel Rousseau distingue le gouvernement de la souveraineté, loin d'affranchir le premier de la forme de la seconde, l'y assujettit au contraire sans réserve. Le gouvernement est analytiquement compris dans le concept juridique de la souveraineté, même s'il s'en distingue formellement. La question aujourd'hui est de savoir comment repenser ce mot, après l'effondrement des cadres de pensée religieux, puis juridico-politiques qui lui ont successivement donné sens.